façon, ça a été un grand succès quant au temps qu'on a consacré au sujet spécifique pour nous plonger substantivement et pour avoir un échange ouvert et sincère. On va commencer. On a jusqu'à 2 heures, si je ne me trompe. En fait, c'est les machines ici qui régulent tout. Et donc, nous avons David Mayer, Keith Drazek. Et donc, on essaiera de répondre. C'est votre réunion. On veut bien participer de cet échange. C'est Keith qui prend la parole. Merci, Steve. Bruce, bonjour. Je suis Keith Drazek, le président alternatif du groupe de parties prenantes. Et Steve, comme Steve a dit, notre président avait une autre obligation et en fait, il a dû partir à midi. Il s'excuse, mais bon, vous êtes avec moi. Donc, je suis Keith Drazek et j'ai Jeff Newman, Jonathan Robinson et Ching Chao, qui sont tous des consultateurs, des conseillers pour le groupe des parties prenantes des registres de la GNSO, donc de l'organisation de la GNSO. Donc, c'est une opportunité maintenant que nous avons pour communiquer. Je voudrais qu'on voie l'ordre du jour et les sujets que vous voulez qu'on adresse à partir de la liste que vous avez proposée. On voudrait brièvement mentionner le sujet de l'intégration verticale, voir le PDP sur les recommandations, les chaînes qui sont très confuses, les IDN des caractères uniques, pour les nouveaux hôtels, les recherches de PDG. Et finalement, la réponse que nous a posée le directoire, c'est comment vous voyez les modifications et les impacts pour la GNSO, l'ICANN et le groupe de parties prenantes de l'organisation de registres à partir de la présentation des nouveaux GTLD. Donc, allons-y, commençons. Steve Crocker prend la parole. Je pense qu'on a beaucoup, on en a trop pour travailler bien avec tous ces nouveaux GTLD. On ne va pas les réviser tous, mais en fait, on a trois qui sont principaux et on essaiera de travailler dessus. C'est ce qu'on devrait faire, en fait, établir quels seraient les trois plus importants et faire un choix. D'accord, merci Steve. Alors, on va essayer d'établir les priorités et essayer de pouvoir répondre aux questions que vous allez nous poser. En même temps, juste pour commencer, je voudrais dire au sujet de l'intégration verticale que le directoire sait que ceci a intéressé les groupes des parties prenantes des organisations, particulièrement pour les opérateurs des registres qui sont intéressés à l'intégration verticale. Donc, on voudrait avoir une réponse du directoire et de l'équipe ICANN par rapport à ce sujet. Et donc, on devra montrer que dans le court terme, il y aura un processus et une procédure établie pour les registres qui existent déjà pour qu'ils appliquent l'élimination de la titularité conjointe et la restriction d'intégration verticale pour les TLD qui existent. On va faire une priorité de ceci. C'est très opportun et on voit que beaucoup de nos membres suivent cette procédure, ce processus pour finir avec ce travail, pour pouvoir travailler dessus. Donc, voilà ce qu'on voulait mentionner sur l'intégration verticale, à moins que vous ayez des commentaires. Voilà notre commentaire. C'est tout ce qu'on voulait dire. Jeff, vas-y. Oui, je voudrais juste ajouter que on voulait se rassurer que le processus soit mis en place dès que possible et que les registres ont exprimé leur intérêt à appliquer ceci avant Prague. Je ne sais pas si vous êtes engagé à faire ceci, mais si vous voyez les recommandations de l'équipe, on va se servir du même processus et ceci a déjà été accepté pour permettre que les registres qui existent déjà, parce que je sais que certains sont en train de sauter un peu, ils ne savent pas ce qui va se passer et ils essaient de comprendre le processus. Et donc, c'est ce qu'on a recommandé. Steve dit, d'accord, je prends note. Keith dit, OK, alors sur ma liste, j'avais juste une brève discussion sur le PDP, la procédure de développement de politique et pour la mise en place des recommandations de l'équipe de révision. Est-ce que Jeff, tu veux commenter ceci? Jeff dit oui, bien sûr, ceci va vous dire quelque chose, parce qu'on a déjà commenté ceci, je ne sais pas si c'était samedi ou dimanche, mais en fait, le groupe des parties prenantes des registres apprécie et reconnaît le travail du groupe de révision de WHIS et ils ont beaucoup travaillé. On veut les féliciter sur ce rapport. Et pour le groupe de parties prenantes des registres, on a quand même des recommandations pour les politiques qui devraient venir en général des GSL, donc un modèle ascendant, au lieu de venir de l'équipe de révision. Donc, même si ce groupe est conformé par des membres de la communauté, on pense que ceci ne devrait pas être considéré comme une substitution pour le développement de politiques ascendantes. Donc, voilà, je veux juste essayer d'inclure tout. On a des recommandations qu'on croit qui devraient passer le processus de PDP. Alors, Jeff, ceci me semble raisonnable lorsqu'on considère les recommandations d'ATRT et beaucoup de ces points ont une relation entre eux et c'était des processus du directoire ou qui sont contrôlés par le directoire. Alors, le directoire a pu signer ceci et dire, bon, oui, on accepte les recommandations d'ATRT et on ordonne à l'équipe de les mettre en place. Donc, les différences avec les recommandations de WHIS et l'impact qu'ils ont dans les tiers parties de la communauté qui peuvent être affectées par ceci et on devrait chercher à avoir un consensus. Donc, le problème pour le directoire est comment la GNSO devrait les prioriser et le conseil a dit, bon, en fait, le rapport du groupe de WHIS, merci, mais on voudrait savoir ce que la GNSO en pense. Donc, je crois que le problème pour nous est quant au principe, mais le problème est bien sûr qu'on ne savait pas ce qu'on devait dire pour travailler dessus. On devrait voir que ceci fonctionnait. Donc, on ne veut pas que ceci stagne. Merci, Bruce. Je veux ajouter que le directoire a beaucoup travaillé sur le processus du PDP et qu'ils ont une approche unique et la GNSO aussi. Et donc, le directoire ne peut pas forcer un PDP à la GNSO sans un vote. Et donc, si le directoire demande à la GNSO d'avoir un PDP sur les proxys ou les enregistrements de confidentialité. Il n'y a pas de confidentialité, on n'a pas de blocage et ceci doit être fait immédiatement. Donc, si les groupes de travail en général, on devrait savoir comment ils travaillent ensemble et comment ils peuvent proposer des recommandations. Et donc, c'est une préoccupation pour tous les PDP. Mais en fait, en ce moment, les recommandations seraient de établir des priorités pour les recommandations et pour les recommandations qui demandent une révision de politique. Et il faudrait travailler sur ce problème au lieu de dire, bon, c'est un problème de la GNSO. Mais je crois que c'est comme ça qu'on peut avancer. Bon, j'ai une perspective un peu différente, dit Steve. Je vais essayer d'ajouter à ceci pour ajouter les morceaux qui manquent dans ce système. On a écrit les recommandations dans une version préliminaire du rapport et j'ai demandé à l'équipe d'examiner les recommandations et d'envoyer préliminairement l'estimation de la factibilité, la faisabilité qui serait affectée par ceci. Et c'est un processus de réunir information que le directoire est en train de faire. Et donc, pour les PDP, en fait, c'est un des aspects qu'on devra aborder et donc on devrait savoir quelles sont les recommandations beaucoup de temps avant que le directoire ne prenne des décisions. Et en fait, on réunit des décisions et puis on donne du conseil et on accepte le conseil qu'on reçoit des autres sources. Alors, c'est juste qu'on dit, bon, c'est ça qu'on devrait faire à partir de plusieurs principes. Et donc, il s'agit d'évaluation, en fait, et ça dépendra de l'évaluation de chacun. Alors, avant de commencer à vous préparer pour nous envoyer des missives ou pour recevoir des missives disant on va commencer un PDP. Je crois que la meilleure façon que vous avez pour savoir comment les PDP vont appliquer ceci, qu'est-ce qu'ils vont appliquer, qu'est-ce qu'ils vont pas appliquer, quelles sont les estimations de temps et de priorité. Je crois que vous devriez prendre des décisions informées et j'espère que ceci sera inclus parmi vos expectatives et pour que le processus soit plus sensible, bien sûr. Alors, merci Steve. Est-ce qu'on a d'autres commentaires sur ce sujet? Sinon, on va passer au troisième point. C'était la discussion de les chaînes qui étaient confusément semblables. Alors, Chuck va parler ceci. Merci Keith. On est reconnaissant de cette session. Je voudrais classifier ce que je vais dire à travers la remarque initiale de dire que j'ai déjà discuté ceci avec Gert et John aujourd'hui, plutôt le matin. Et donc, ce n'est pas simplement un sujet qu'on présente au directoire. Donc, je pense que c'était une conversation constructive. En deuxième lieu, je voudrais dire qu'il ne s'agit pas d'un problème neuf. Ceci n'a pas été mentionné à la dernière minute, mais s'il s'agit d'un problème qui a été mentionné il y a un an et demi à peu près, le processus de mise en place pour les nouveaux GTLD, pour n'importe pour quoi que ce soit, a été mentionné plusieurs fois depuis. Donc, je crois que c'est pas un aspect du guide de candidature qui est mentionné pour la première fois. Ce n'est pas le cas. Et donc, je vais vous fournir un panorama pour établir le contexte. Et donc, dans le nouveau guide de candidature, la première révision de confusion de chaîne est très précoce dans le processus et elle évolue la similarité visuelle. Et donc, lorsqu'on a ceci et quand deux chaînes sont tellement semblables, on a beaucoup de probabilités de confusion et en fait, cette candidature pourrait être rejetée à ce point-là. Parmi les recommandations de la GNSO, la raison pour cette recommandation était d'éviter la confusion des utilisateurs. Et donc, en fait, l'intention de la GNSO était de minimiser la confusion des utilisateurs. Donc, on est tous d'accord là-dessus. Le problème est que on a une possibilité où les deux chaînes pourraient être semblables visuellement et ne pas représenter de confusion selon la façon dont on les offre. Et donc, le directeur a accepté un fast-track de CCTLD pour les IDN. Et donc, un suivi rapide, c'est-à-dire, et donc, lorsqu'on a offert deux types de chaînes qui minimisaient la confusion pour ce type de chaînes. Donc, c'était bon parce que ceci est censé, il n'y aura pas de confusion. Mais en fait, en ce moment, le guide de candidature n'accepte pas de processus d'exception pour ceci. Si deux chaînes sont visuellement semblables, elles pourraient être rejetées. Et nous avons des commentaires qui vont être présentés par écrit et ce n'est pas la première fois qu'on mentionne ceci, mais ceci sera présenté dans les prochains jours. Et donc, si l'option était d'étendre la révision, de l'élargir et la personne pourrait présenter sa propre candidature et qu'il n'y aurait pas de confusion et qu'il y a déjà un panel de similarités et de nouveaux aspects pour le processus, on évite en fait les conséquences que la GNSO ne voulait pas. Le fait qu'il n'y ait pas de confusion, et s'il n'y a pas de confusion, on ne veut pas rejeter des candidatures pour les chaînes. Et donc, pour le dire simplement, quand on se présente comme candidat pour une nouvelle chaîne dans le processus, on ne devrait pas la rejeter automatiquement simplement parce qu'il est semblable visuellement. Alors, merci, Chuck. Et pour rajouter à ceci, en fait, si une organisation se présente comme candidat pour deux ou trois chaînes qui sont semblables, mais en fait, puisque c'est la façon dont le registre ou l'organisation les a offertes, ce ne devrait pas être rejeté. Particulièrement parce que si le registre va offrir ce bundle, ce regroupement ou ces noms de domaine, on élimine les noms, ceci est important et on croit que ceci devrait être permis parce que on devrait revenir à la recommandation de la GNSO et si l'intention des recommandations est de ne pas confondre les gens, puis on ne devrait pas éliminer les chaînes. Bien, Roddy, j'ai une précision. En fait, bien sûr, le guide de candidature a été approuvé par le directoire avec certaines petites modifications. Et en fait, on demande si vous demandez qu'on fasse cette modification sur le guide de candidature. Chuck dit oui. Bon, merci, dit Rod. OK, merci, dit Keith. Nous allons avancer pour saisir le temps qu'on a. Notre point suivant sur l'ordre du jour est les IDN de caractère unique. Et je crois que c'est Edmond qui va traiter ce sujet. Edmond dit d'accord. Encore une fois, ce n'est pas un sujet qui soit nouveau. Et je crois qu'on a travaillé sur le problème. Et donc, le groupe de travail GIG, le groupe de travail conjoint et le groupe de travail sur les IDN entre la GNSO et la CCNSO a travaillé sur ce problème. Ils ont envoyé un rapport aux deux conseils du directoire et le directoire a répondu. Et en fait, le ESSAC a récemment répondu sur ce problème et on l'a observé. Et on voit que la plupart des points, des objections qu'ils voient sont semblables. Et c'est tout ceci porte sur le fait de la similarité entre les chaînes et les variantes IDN, en fait, et les relations entre toutes celles-ci. Donc, en fait, les recommandations sont différentes parce que la recommandation de l'ESSAC ne permet pas que ce processus suive. Le GIG recommande d'avancer. En fait, ce que je veux dire, que le directoire fasse attention au fait de la différence entre les recommandations. Le GIG a maintenu une réunion sur ce sujet et le ESSAC a participé. Je voudrais préciser ici quelques points. En fait, apparemment, le ESSAC présente des recommandations qui se basent sur deux aspects. En premier, le manque de limites ou de définitions pour ce qu'est un IDN de caractère unique. Et il s'agit d'un problème critique sur lequel ils basent leurs recommandations. Et puis, ils disent qu'il y a un manque de procédures et d'outils pour processer ces révisions de similarité entre les chaînes, entre les IDN de caractère unique. Donc, ce sont les raisons principales pour les recommandations de l'ESSAC. Le problème ici est que si ceci est correct, on a un problème plus grand parce qu'en fait, en ce moment, le guide de candidature requiert que deux IDN d'IDN de deux caractères soient comparés avec les IDN de caractère unique et ceci provoque une confusion. Et en fait, il vise à éviter la confusion entre les chaînes de caractère unique. Et donc, si on n'a pas des processus pour éviter ceci et pour gérer les caractères uniques, on aura un problème avec le processus général des nouveaux GTLD. D'autre part, s'il était vrai qu'on ne peut pas identifier la limite d'un caractère unique, en fait, on ne pourrait pas trouver de limite pour deux caractères non plus pour les IDN. Donc, en fait, ceci crée, je pense, une sorte d'effet domino. Et ceci présente un problème pour tout le nouveau processus des nouveaux GTLD. Et donc, voilà quelques points qu'on voudrait que le directeur considère, qu'il fasse attention à ceci. Je pense qu'ils sont en train de considérer la présentation d'une déclaration préliminaire sur ce sujet. Je pense qu'on va le considérer. Steve dit, bon, je vais essayer de paraphraser, reformuler ce que tu viens de dire. C'est que tu crois que on ne sait pas ce qu'est un caractère unique, mais on sait quand on le voit. Mais en fait, oui, c'est la base de rapport de ESSAC. Donc, en fait, dit Steve, je vois que peut-être il manque une conclusion au rapport du ESSAC ou aux autres publications qui indiquent clairement quelle est la précision des limites desquelles on parle et quel serait le caractère unique pour les IDN, de quoi il s'agit, et peut-être on devrait discuter sous ceci, tout ceci. Alors, Thomas dit, bon oui, peut-être je voudrais préciser ce qu'est le problème ou ce qu'est la question, parce que je crois que les IDN et les caractères uniques portent sur beaucoup de problèmes qui n'ont pas été résolus. Et donc ma question est, quelle serait la partie qui devrait être reformulée, où on devait travailler avant la publication du guide de candidature? Est-ce qu'on devrait le faire le long de cette prochaine année, etc.? Il nous reste à travailler. Oui, Edmond qui parle. En fait, si la base de rapport de SAC est vraie, donc on aura un problème plus grand avec le guide de candidature pour les nouveaux GTLD, parce que ceci requiert une chaîne TLD pour IDN de 2 caractères et une chaîne de 1 caractère, et on va devoir réviser la similarité. Donc en fait, dans le guide, le processus requiert qu'on compare des chaînes de 2 caractères avec des chaînes IDN de 1 caractère, et ceci ne pourra pas être fait si c'est vrai ce que le rapport SAC dit. Et alors on a Thomas puis Judith, et puis je vais faire un commentaire d'ici. Thomas dit, bon, en fait, ce que je comprends, est-ce que la comparaison devrait être visuelle? Donc, on devrait comparer s'ils sont semblables ou pas visuellement, et donc ne pas regarder, faire attention à la distinction entre un caractère, deux caractères nécessairement pour faire ce jugement, pour émettre ce jugement. Steve dit, bon, en fait, on n'a pas une liste définitive de tous les caractères possibles, tous les IDN d'un caractère qui pourrait exister possiblement. Je sais qu'il semble étrange, mais en fait, je suppose que c'est ce qu'il suggère. Oui, c'est ce que le guide dit en ce moment, dit Edmond. Bien, dit Steve. Alors, tout ceci est trop technique pour nous. On ne peut pas le résoudre maintenant, en ce moment. Judith dit, bon, selon ce que je sais, d'après ce que je sais, le rapport du SAC dit qu'un IDN de caractère unique est un grand risque, donc c'est une situation de grand risque. Et donc, ils observent l'aspect du marketing d'une idée unique et donc et d'un IDN de caractère unique. Mais donc, est-ce qu'on va faire face au risque? Et puis, si on a un IDN de 2 caractères, on va fournir davantage de contexte à la signification, particulièrement pour les caractères chinois. C'est pour ça qu'on veut accepter, qu'on veut incorporer ces IDN de 2 caractères pour ajouter les caractères asiatiques. OK, je pense pas qu'on ait rejeté ça, cet élément particulier des IDN. Steve dit, bon, je pense qu'il s'agit ici d'un type de problème. Voilà. En fait, je pense qu'il s'agit d'un problème de technicisme entre l'application de cette idée pour les IDN, non seulement de caractère unique, mais pour les IDN de 2 caractères. C'est un peu confus. Alors, on ne va pas pouvoir analyser ceci en détail. Mais personne, il devrait y avoir quelqu'un qui le fasse, en fait. Je pense que, alors, c'est jusqu'ici qu'on va travailler dessus. Merci, Dikit. Donc, je pense que tous les membres du staff ou les membres du directoire peuvent faire leur contribution, et on a des experts qui proviennent du groupe de parties prenantes du registre et qui peuvent faire leurs apports aussi. On va maintenant adresser les questions que le directeur nous a posées, et comment travaille le groupe de parties prenantes du registre, ou alors quelles seraient les modifications ou l'impact qui pourrait faire à notre groupe de parties prenantes de la GNSO ou à l'ICANN au complet à partir de la présentation des nouveaux GTLD. Donc je vais commencer et puis je vais passer la parole aux autres membres du groupe de parties prenantes. Mais je voudrais noter que les registres ont vu ces modifications à mesure qu'elles se sont faites depuis quelques années. Et cette dernière année, nous avons mis à jour nos statuts et notre acte constitutif pour reconnaître l'addition des membres observatoires de notre groupe de parties prenantes et aussi pour améliorer nos régulations pour les votes ou les règles pour les votes et tels que ceci relationne les nouveaux membres avec les registres, les bureaux d'enregistrement, les nouvelles organisations de bureaux d'enregistrement et la préoccupation de la propriété intellectuelle. Et donc, peut-être qu'on a des instances où les membres des groupes de parties prenantes des organisations des bureaux d'enregistrement appartiennent à plusieurs groupes de parties prenantes ou à des SO ou à des AC. Et dans notre statut, dans notre chapitre, on a fait les modifications pertinentes. Et donc, en fait, nos membres peuvent voir peut-être ceux qui appartiennent à plusieurs SO, plusieurs AC, qu'un membre ne devrait pas pouvoir voter à un moment donné et qu'il y a des procédures qui existent pour que les créneaux établis pour les modifications à chaque fois, pour revenir, pour aller en avance, fassent cet aspect des votations, des responsabilités de la votation, des conditions de la votation et telles qu'au groupe de parties prenantes, je crois qu'on devrait adresser ce sujet. Pour nous, c'est un problème en termes de structure. On a été très proactive et on a déjà été engagé sur ce sujet et sur le groupe des parties prenantes des bureaux d'enregistrement depuis plusieurs réunions à ICANN. Et on voudrait discuter maintenant ces problèmes avec les connaissances qu'on a dans l'intégration verticale et le problème de la titularité croisée et donc avec le groupe des parties prenantes qui vont traiter ce sujet. Et donc, je voudrais savoir ce que le reste du monde a à dire et on prendra des questions du directeur. Steve Crocker dit, bon alors, combien de membres est-ce que vous avez dans votre regroupement des organisations, des bureaux d'enregistrement en ce moment? 13. 13 membres qui ont le droit de vote. Oui. En ce moment, Dickies, on a aussi des observateurs qui viennent d'autres organisations. 6. Alors, bien. Et alors, vous espérez que ce numéro grandira après le cycle des nouveaux GTLD? Ou peut-être que ce sera magnifié? Oui, sans doute, et on espère ceci, et on espère que notre groupe de parties prenantes soit plus semblable à celui des bureaux d'enregistrement dans le futur, et en termes de taille, de complexité, des intérêts variés entre nos membres, et si je dois deviner, je crois que le comité exécutif va avoir un rôle plus prominent dans l'avenir que ce qu'il a eu dans le passé. Donc, en termes de problèmes de gestion logistique, opérationnelle, sur les discussions des différents problèmes. Judith, elle dit oui, d'accord, je sais que aujourd'hui, les grands 3 ou 4 registres vont fournir la plateforme technique pour les nouveaux GTLD. Donc, lorsqu'on a un problème par rapport à la conformité ou le processus, qui parmi l'équipe d'ICANN et l'équipe du directoire, à qui devrait-on envoyer le problème? Est-ce un fournisseur technique ou le registre? C'est une bonne question. Je crois qu'il s'agit des fournisseurs des services de registre. Et en fait, la relation contractuelle serait entre ICANN et l'opérateur du registre et l'opérateur de l'ICANN. Cependant, peut-être que dans l'avenir, les opérateurs de registre signeront un contrat avec ICANN pour désigner leur fournisseur de services de registre pour voter à leur place au sein de notre groupe de parties prenantes. Et peut-être qu'ils vont nommer quelqu'un d'autre comme consulteur pour qu'ils les représentent au sein de notre groupe de parties prenantes. Donc, on n'a pas de prescription particulière, mais en fait, ce sera l'opération entre l'opérateur du registre et l'ICANN. On a beaucoup de cet aspect qui dépendra de la nature du candidat du registre réel. Donc, vous allez voir que on a plusieurs numéros, plusieurs marques qui peuvent présenter leur candidature. Et alors, il s'agit de voir quelle est l'intention qu'ils ont pour se servir des nouveaux télés dans l'avenir. Et ceci aura un impact sur leur engagement par rapport à la scène des Cannes. Si j'étais, disons, BMW et je planifiais de me présenter en tant que candidat pour un TLD et je vais m'en servir, par exemple, pour Mercatique ou pour la conscience de marque, la diffusion et peut-être un petit email, etc. Je voudrais dire, bon, je veux pas vraiment participer à l'ICAN. C'est ça ma préoccupation. Pour nous rassurer que ça fonctionne, en fait, on doit avoir un bon délégué et les planifications impliquent un engagement plus profond et une grande variété d'enregistrements de deuxième niveau dans beaucoup de domaines différents et ceci sera plus engagé. Alors, c'est un facteur qui le définit. Bien, Jeff, Jonathan?
Bien, je pense que ma question est vraiment... C'est quelque chose qui attire l'intérêt du directoire parce qu'on a parlé du GNSO, des groupes de parties prenantes. Donc, j'aimerais maintenant demander aux membres du directoire dans quelle mesure les réponses fournies aujourd'hui vont traiter ce problème et s'il y a quelque chose de plus que l'on peut ajouter. Est-ce que vous pensez que c'est bien? Est-ce que vous pensez que c'est... Dans quelle mesure on a répondu à vos questions? Jeff, Bertrand. Merci pour la question. Je dirais que fondamentalement, l'objectif d'insérer cette question ici, à ce moment-là, c'est d'avoir le temps de discuter de toutes ces questions. Nous avons une session avec le groupe de commercial, d'IP, etc., juste avant. Et il y a eu un message qui est passé. Ce n'est pas le moment de changer quoi que ce soit dans la structure du GNSO. On vient de finir. Bon, ça suffit. Donc, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ce n'est pas une question de faire des changements maintenant. C'est une question de permettre un processus constant entre tous les acteurs de la communauté pour comprendre collectivement quel est l'impact de ce programme important. L'élément fondamental derrière tout cela est qu'il y a des cas où des changements quantitatifs ont donné lieu à des changements qualitatifs. Et je pense que ICANN, dans le système de noms de domaine, ne va pas faire la même chose avec les nombres et les registres que ce qu'il a fait. Il y a une série de problèmes qui sont des opportunités aussi, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent appartenir, qui peuvent arriver entre des personnes qui ont les mêmes intérêts, les mêmes défis. Donc, je pense que c'est un problème qui concerne les regroupements, c'est un problème qui concerne le GNSO dans son ensemble, c'est un problème qui concerne la communauté dans son ensemble. Je dirais que lorsqu'on a eu cette discussion avec la LAC ce matin, la question a été reformulée dans l'ordre du jour. Quel est l'impact du programme des nouveaux GTLD sur la LAC? Ce n'était pas l'idée initiale. Mais ça a donné lieu à une question très intéressante concernant quel est le poids des différents SO AC dans la structure, dans les structures, et la distribution des ressources, etc. Donc, ce que je voudrais dire ici, c'est que c'est une façon de lancer une discussion, un processus de discussion ordonné. C'est quelque chose dont nous avons discuté dans le comité structural du directoire, d'amélioration structurelle du directoire et dans le comité de participation, puisque ça a un impact sur la façon dont les politiques sont développées, etc. Et nous suggérons l'approche suivante. D'abord, se focaliser sur une collecte très simple, un recueil très simple d'une liste d'impacts potentiels, pas de solutions. Essayer de voir quels sont les points sur lesquels on peut faire, sur lesquels il va y avoir une pression directe ou indirecte. Des fois, on a un effet, un premier effet, qui a un effet ricoché sur d'autres choses comme la politique, le développement de politique, la façon dont les contrats vont être organisés, etc. Par conséquent, La conclusion, ce serait qu'il faut mettre ce point à l'ordre du jour, attirer l'attention, dire que c'est une préoccupation générale, sans enfreindre les responsabilités de chacun des niveaux pour répondre, pour aborder ces aspects spécifiques et faciliter une approche globale qui va permettre de faire un appel, hein, pas pour un commentaire public, mais juste un appel à contribution. Comment est-ce que vous, qu'est-ce que vous considérez comme un impact potentiel? Essayez de trouver un format approprié à Prague pour avoir une discussion parmi les différents acteurs, pour avoir une liste commune des défis que nous devons relever. Donc, toutes les personnes peuvent rentrer dans leurs silos, dans leurs espaces, discuter des séries de questions accordées et ensuite revenir, hein, une fois que les personnes auront discuté et parler tous un petit peu le même langage, être tous sur la même ligne. Les réponses que vous allez donner vont envoyer un message. Oui, bien sûr, on s'inquiète, ça nous intéresse. Et bon, c'est ce qu'on attend de vous. Merci beaucoup, Bertrand. Très utile. Sherwin, il me semble que vous avez un commentaire. Bertrand a dit quelque chose de très éloquent. Je pense que je voudrais ajouter une petite chose. Nous, à Eiken, nous sommes nés en 1998. Ça fait déjà une douzaine, 14 ans. C'est un processus qui évolue. Lorsque des événements importants ont lieu, il faut créer des structures. Je pense que le GTLD pourrait être un événement important. Et voyons un petit peu comment continuer à réfléchir, voir comment continuons, disons, à évoluer doucement, hein, comme nous le faisions. Mais ça peut peut-être ne pas être suffisant. Il faut voir un petit peu à l'extérieur de notre propre silo, avoir une vision globale et dire, est-ce que nous devons faire quelque chose de différent? Comme Bertrand l'a dit, il ne s'agit pas de faire des changements maintenant. Il s'agit d'y penser, voire mettre le problème sur la table, essayer de réfléchir. Parce qu'on peut peut-être dire pas de changement important ou faisons les choses différemment, hein, etc. Merci Cheryl, Jeff. Oui, je pense qu'il y a ici beaucoup de choses qui sont en jeu. Comme cela a été dit, ça fait longtemps qu'on dit que cela allait arriver, hein. En 2009, on l'a dit, donc je pense que ça entraîne davantage de complexité. Les opérateurs de registre vont être les représentants des groupes de parties prenantes et je pense que ce devrait être les bureaux d'enregistrement qui sont les délégués, qui sont les représentants des registres dans les groupes de parties prenantes. Il y a beaucoup de registres, il y a beaucoup de firmes, de consultants, et donc je pense que tout cela représente une série de registres dans le groupe de parties prenantes. Une autre chose que je voulais dire, c'est que il y a différents types de registres qui vont apparaître, des registres génériques, mais on a aussi 1500 TLD, et donc on voit ça dans le cas des opérations continues, des COI, hein, voir un petit peu les registres génériques, hein, et les TLD de marque. Il y a une série de conversations à ce propos, donc ça va créer des difficultés, hein, pour arriver à une opinion consensuelle. Donc je pense que ça va être un défi pour le directoire, et certaines de ces positions vont être un défi, hein, pour arriver à considérer chaque position. Donc il s'agit d'une politique qui va être appliquée à tous les TLD sponsorisés et non sponsorisés, hein. Merci Jeff, vous avez raison. Nous avons maintenant Jean Eiken. Merci. Je vous remercie. Je pense que ici nous avons une présidence historique que nous avons vue. Par exemple, nous savons tous ici que nous avons des CCNSO et qui ont une espèce de un système établi à partir de l'année 2003 et certains des CCTLD, certains qui sont en opération, d'autres non, d'autres qui ne sont pas actifs, forment une organisation régionale après l'établissement du CCNSO. Et donc, ce que j'essaye de dire ici, c'est que peut-être que maintenant, dans cette salle, j'essaye de voir qu'est-ce qu'on doit faire hein, pour le prochain cycle des GTLD. Mais à l'extérieur de cette salle, il y a peut-être des milliers de personnes hein, qui vont essayer de suivre un processus ascendant et on devra probablement leur laisser un peu de place pour qu'ils développent ou qu'ils trouvent une façon de créer des structures. Hein. Donc, un petit commentaire là-dessus qu'on pourrait faire pendant la PTLD. Hein. C'est certains membres observateurs d'Asia, par exemple, Point Asia, par exemple, nous sommes un GTLD, nous n'avons pas le droit de vote dans ce CTLD particulier, dans cette organisation de ce CTLD particulier. Et on aimerait aussi savoir comment étendre la structure des membres au nouveau GTLD, parce que nous n'avons pas vraiment l'impression d'avoir une organisation compétitive dans la zone de l'Asie et des Pacifiques. Les GTLD sont, les organisations de GTLD ont aussi une structure similaire, commune. Et donc, voilà. C'était un petit commentaire que je voulais faire. Merci, Chen. Je crois que c'est un autre point ici que je n'avais pas mentionné. Il y aura beaucoup ici de travaux à faire entre les CCTLD et les GTLD, les opérateurs de ces deux secteurs, dans les années à venir. Par conséquent, et si vous voyez notre impact au niveau de la structure d'ICANN en tant qu'organisation, que communauté, il y en aura sûrement. Je voudrais d'abord dire nous avons moins de 10 minutes pour notre session, avant la conclusion de notre session. Donc, je pense que vous aurez besoin de quelques minutes peut-être, mais s'il y a des membres du board qui ont d'autres commentaires, d'autres questions à poser, nous serions ravis d'y répondre. Bien, Erika, juste une question rapide. J'ai écouté hier et ce matin ce qui a été dit concernant la discussion du Who is, et ça montre les incertitudes concernant les gouvernements, les données qui sont recueillies, comment faire pour donc assurer ces processus de sécurité. Que répondriez-vous? Est-ce que en court terme et à long terme, est-ce que vous considérez que vous avancez? Vous pouvez vous engager et dire, voilà, c'est le bon chemin, c'est le chemin correct à suivre. Oui, je comprends votre question. La question concernant les risques qui ont été identifiés par le GAC et par et mes collègues, est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Un de mes collègues, est-ce que... Je dirais que personnellement, je pense que nous reconnaissons que le GAC et les gouvernements en général ont un intérêt légitime et des préoccupations pour leur communauté. Et nous avons entendu une voix croissante, une influence croissante ces dernières années. Et mon avis est que ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Et d'une certaine façon, ils sont les bienvenus. Les gouvernements se sont engagés au niveau de leur temps et de ressources pour contribuer, pour fournir des conseils. Et je pense personnellement que l'interaction entre le board et le GAC à Bruxelles était quelque chose de très positif, en effet. Pour beaucoup de raisons. Donc, pour en revenir à la question concernant les risques, est-ce que le GAC et, ou d'autres ont identifié des risques? C'est quelque chose que les registres, les bureaux d'enregistrement, les secteurs commerciaux doivent prendre en compte sérieusement. C'est une réponse un peu vague, mais je pense que oui, une petite précision concernant ce que vous venez de dire. Une des choses on a plus reconnu, c'est que c'est d'accord, c'est une question complexe, c'est un héritage complexe qui existe depuis longtemps, mais à mesure qu'on avance d'une certaine façon, ce problème, comment l'espace va changer. Il faut voir l'industrie dans son ensemble de manière globale et reconnaître que les CC ont aussi un service, offrent aussi un service et ont une approche consistante à ce problème et qu'une approche globale de ce problème est importante aussi. Et c'est ce qui fait que nos discussions doivent aborder cette approche aussi. Bien. En ce qui concerne WHOIS et les données WHOIS, certaines communautés pensent que cela va avoir un impact sur les registres ou sur les bureaux d'enregistrement, mais je pense que l'impact, hein, le problème de WHOIS, que ce soit les recommandations qui proviennent de l'équipe du rapport de l'équipe de révision et autres, hein, il s'agit ou le passage d'un WHOIS SIN à un WHOIS SIC, hein, c'est pas seulement une question de registrant et de service WHOIS, je dirais qu'en général, lorsqu'on essaye d'aborder ces problèmes, il faut le faire. Et si une politique va être établie, hein, il faut un processus de développement de politique ici. Et donc, je vois que tout le monde dans la politique doit avoir la possibilité de participer, de contribuer. Et donc, quel que soit ce que nous disons, il faut que tout le monde ait la possibilité de prendre part à ce processus et de donner son avis. Kahn et Bertrand. Oui, c'est ces 14 années, hein, et sont d'une grande importance. Et je pense qu'on n'aura pas de problème de gestion technique de cet espace. Par contre, je pense qu'on va avoir des problèmes au niveau de la gestion opérationnelle de cet espace dans le futur. Je pense qu'il va y avoir des défis politiques très importants dans le futur, parce qu'il va y avoir des lignes qui vont être marquées, tracées définitivement au niveau du DNS, qui va être très différent de ce que nous le voyons aujourd'hui. Et comment est-ce que les politiques vont affecter cela, hein? Ce sera, à mon avis, quelque chose, un problème très important. On va avoir un grand groupe de personnes dans le domaine des marques qui n'auront aucun intérêt dans une série d'éléments, hein? Et puis, il y aura d'autres groupes qui auront beaucoup plus d'intérêt dans ce domaine, parce que cela va affecter les économies en développement, les langues, etc. Donc, les politiques, il va y avoir un grand changement au niveau des politiques. Je pense qu'il faut être prêt à affronter cela et prêt à avoir un niveau de conformité important, hein. Et un exemple de cela, je serai rapide, hein, c'est le système de clearinghouse. Nous avons ici la façon dont ce processus va gérer dans ces années à venir ces activités. Est-ce qu'il y aura assez de capacité d'échelonnement, hein, pour affronter tous ces problèmes, hein? Bien, Bertrand, Jonathan Robinson, et je pense que nous devons conclure notre réunion. Bien, pour suivre la discussion, je dirais, qui a lieu maintenant, je dirais que deux ou trois problèmes typiques qui vont apparaître sont la diversité des types de nouveaux GTLD. Ces acteurs vont avoir un rôle des rôles différents, jouer différents types de problèmes, différents types de défis, hein, pour le reste du monde. La deuxième question est cette diversité et ce qui nous mène actuellement à la séparation entre le GNSO et le CCNSO dans le DNSO. Et donc le deuxième élément, et c'est que dans cette diversité, il va y avoir un élément de la diversité qui va être très important, c'est le niveau de relation avec les gouvernements locaux. Certains de ces TLD vont avoir besoin d'un accord avec leur gouvernement. Certains TLD vont être établis dans des pays où le contrôle du gouvernement sera plus fort que dans d'autres. Et par conséquent, dans ce domaine-là, dans la mesure où dans l'espace des CC, il y a dans l'espace des nouveaux GTLD, il y aura des nouveaux GTLD qui seront plus près dans la façon d'opérer, plus près des CC qui est situé au niveau local que d'autres. Donc, ils vont appliquer exclusivement les règles d'ICANN, ou est-ce qu'ils vont appliquer exclusivement les règles locales et nationales? C'est aussi une question. Ensuite, l'impact de la dimension de la langue ou du script. À mesure où on avance dans les GTLD et les IDN, les GTLD d'IDN, on va voir des convergences d'intérêts similaires, des éléments similaires que les personnes vont partager au niveau des CCTLD à travers des intérêts régionaux. Et donc, ça va permettre que certains problèmes que tous les TLD qui sont, par exemple, en cyrillique, trouvent et vont à ce moment-là vouloir collaborer, partager certains types d'outils, d'infrastructures, etc. Et par conséquent, l'apparition de clusters de TLD, par type d'activité, par emplacement, etc., va être le type de structure, de facteurs structurels qui vont apparaître. Je ne peux pas les prévoir, mais je pense que c'est des choses qui vont exister. Merci Bertrand, Jonathan. Et puis, et la conclusion. Très brièvement, je pense que à propos de cette question, c'est une question très intéressante à aborder au niveau du directoire et les problèmes que nous voulons aborder, c'est le problème des intérêts, des conflits d'intérêts et la composition du directoire. Et finalement, ce sont des thèmes d'une grande importance. Il est clair que l'expérience et l'expertise sont au cœur du bon fonctionnement d'un directoire. Et l'opinion que nous avons concernant le groupe de parties prenantes, c'est que la bonne gouvernance n'est pas obligatoirement engagée dans l'expérience de l'industrie. Et les conflits peuvent exister à condition qu'ils ne soient pas de nature globale, ils peuvent être résolus. Donc, nous pensons que nous avons besoin d'une expérience industrielle réelle, d'une expertise opérationnelle réelle dans certaines mesures au niveau du directoire d'ICANN pour aider les organisations à naviguer à travers ces problèmes qu'ils doivent donc régler. Et nous comprenons qu'un bon directoire doit être équilibré par l'indépendance et une expertise indépendante et compétente. Mais cependant, certains des problèmes que nous abordons pour la mise en œuvre et l'exécution ont besoin d'une expérience et d'une connaissance de l'industrie solide. Donc, j'espère que j'ai établi et que j'ai attiré votre attention sur ce point-là. Merci, Jeff. Et la conclusion, je remarque que je pense que ici, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'on a entendu des commentaires hier. On a entendu des opinions sur le fait que le comité devait être dans le directoire, par qui devait être composé le directoire. Et il y a une association négative par ceux qui appartiennent à des parties contractantes entre le registre et les bureaux d'enregistrement. Notre peur, c'est que l'expertise industrielle donne un directoire qui va avoir donc un impact sur les opérations et qui va avoir un impact sur la sécurité et la stabilité de l'Internet. Si on n'a pas une expérience industrielle dans notre directoire, on sera en risque. Et voilà le problème, justement. Merci, Trin O'Rod. Trin, je pense que nous sommes tous d'accord avec vous. Nous avons un directoire avec des directeurs indépendants qui n'ont pas d'expertise dans le domaine de l'industrie ou dans leur travail. En même temps, avoir un directoire qui soit expert dans le domaine, qui soit des experts industriels, c'est pas non plus ce que nous voulons. Donc, nous avons besoin d'un équilibre et je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point-là. Bien, nous sommes absolument d'accord. Il faut un équilibre, c'est ça le problème. Et sans aucun doute, c'est l'expertise de l'expert industriel qui est dans un modèle de multipartie prenante qui a permis à ICANN d'être aussi productif. Nous sommes très productifs du point de vue politique, du point de vue du programme, du point de vue de l'évolution de notre organisation en général. Aucun doute de cela. Donc, je voudrais être très claire. Il n'y a rien de négatif dans mon discours quand j'ai parlé des experts industriels, etc. C'est quelque chose que je considère comme positif. Et je pense qu'on a besoin d'un modèle multipartie prenante et j'ai le plaisir de travailler avec vous dans ce sens. Donc, je pense que les groupes sont un bon exemple, les regroupements sont un bon exemple du savoir, des connaissances industrielles qui rentrent dans notre organisation parce qu'il faut se rendre compte de la complexité et que nous affrontons aujourd'hui. Les IDN, les caractères de TLD, tout cela. Mais voilà, c'est le bon modèle et c'est le modèle que nous devons appliquer pour notre directoire. Merci à tous. Merci pour le bon travail que vous avez fait dans une série de secteurs de problèmes. Les opérations des programmes de nouveau GTLD sont sur la table maintenant. Les équipes de d'ICANN travaillent sur ce problème aussi. Donc, merci encore. Et merci, merci. C'est un commentaire tout à fait judicieux. Steve, bien, allez-y. Bien, donc, en tant que groupe de parties prenantes, nous recommandons. Nous vous remercions les équipes d'ICANN pour leur travail, le directoire aussi pour leur travail qui nous a mené à ce point dans le domaine des nouveaux GTLD, du programme des GTLD, nouveaux GTLD et en général. Donc c'est un plaisir de travailler avec vous. Je profite donc de cette réunion présentielle pour vous le dire, hein, de ce dialogue. Hein, et je dirais que nous sommes engagés à vraiment mettre en place un système de nouveau GTLD qui fonctionne bien avec un calendrier qui soit possible à appliquer. Et donc, nous voulons arriver à un accord là-dessus. Bien, merci. Merci à tous et nous apprécions votre collaboration.